Vous écoutez, on lit pour vous.
Soutien à la participation sociale des personnes handicapées. Un texte de la rédaction paru sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ. Définition du terme « personne handicapée ». Au Québec, une personne handicapée est définie comme « toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante » et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Différence entre une déficience et une incapacité. Dans une société inclusive, les mots utilisés sont d'une grande importance. Le choix d'un vocabulaire précis et respectueux permet de ne pas véhiculer de préjugés en utilisant des expressions négatives ou péjoratives. Le terme « déficience » fait référence à l'aspect organique d'une partie du corps. C'est donc une caractéristique de la personne. Sarah a une déficience du système auditif. Hugo a une déficience du système musculaire. Une déficience entraîne certaines incapacités. L'incapacité correspond aux aptitudes d'une personne, c'est-à-dire à son fonctionnement. C'est une réduction de la capacité d'une personne à accomplir une activité ou à fonctionner sur le plan intellectuel, psychologique, physiologique ou anatomique. Sarah a une déficience du système auditif. Elle a une incapacité auditive. Hugo a une déficience du système musculaire. Il a une incapacité à la marche. On peut opter pour le mot « déficience » ou le mot « incapacité », cela dépend si l'on met l'accent sur l'aspect organique ou sur l'aspect fonctionnel. Type d'incapacité. L'incapacité peut être motrice, visuelle, auditive, intellectuelle. Elle peut également être liée à la parole, au langage, à d'autres sens, à des fonctions organiques, à un trouble du spectre de l'autisme, à un trouble grave de santé mentale. Le terme « personne handicapée » inclut les personnes ayant des incapacités significatives et persistantes. Incapacité significative. Une incapacité significative présente un certain degré de sévérité ou de gravité. Elle n'est toutefois pas significative lorsque la personne ne rencontre plus d'obstacles en utilisant une aide technique comme une prothèse ou une orthèse. Par exemple, si une personne ne peut lire en raison d'une incapacité visuelle, mais que cette incapacité disparaît en portant des lunettes, celle-ci n'est pas significative. Incapacité persistante. Une incapacité persistante est une incapacité dont on ne peut prévoir la disparition. À l'inverse, une incapacité qui survient à la suite d'une maladie ou d'une blessure dont les effets disparaîtront n'est pas considérée comme étant persistante. Obstacles rencontrés. Les obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes correspondent aux difficultés que rencontrent les personnes dans les activités de la vie domestique et quotidienne. Elles peuvent aussi se manifester dans d'autres activités comme les loisirs, l'éducation ou l'emploi. Voici quelques exemples de difficultés que les personnes handicapées sont susceptibles de vivre. Absence de sous-titres dans une vidéo pour une personne sourde. Seuil d'entrée surélevé empêchant l'accès à une personne en fauteuil roulant. Service de billetterie en ligne non accessible aux internautes ayant une incapacité visuelle. Manque d'écoute d'une ou d'un commis d'épicerie envers une personne ayant un trouble du langage. Différence entre une personne handicapée et une personne en situation de handicap. L'expression « personne en situation de handicap » est utilisée pour désigner une personne qui rencontre des obstacles dans son quotidien. Elle est aussi employée pour désigner une personne handicapée. Il y a toutefois une différence. La situation de handicap est le résultat d'une interaction entre les incapacités d'une personne, ses activités et son environnement. Elle met l'accent sur l'importance d'agir sur l'environnement de la personne. Selon ce concept, si l'environnement physique et social est adapté, il n'y a pas de situation de handicap. Des changements peuvent réduire les obstacles qui nuisent à la réalisation des activités de la vie courante d'une personne. Par exemple, l'aménagement d'une entrée de plain pied, l'installation de signaux sonores aux intersections, l'utilisation de pictogrammes simples pour indiquer les toilettes dans un lieu public. L'expression a une portée plus large que le terme « personne handicapée ». Elle englobe les personnes qui ont des incapacités significatives et persistantes, mais aussi des incapacités temporaires ou légères. La situation de handicap est circonstancielle. Elle peut aussi évoluer au cours de la vie d'une personne selon les obstacles qu'elle rencontre dans son environnement pour réaliser ses activités. Ainsi, une personne qui se déplace en béquille durant quelques semaines à la suite d'un accident et qui rencontre des obstacles est en situation de handicap, sans être handicapée. Cette distinction est importante afin de déterminer à quels programmes et mesures gouvernementaux elle aura droit. Aide pour les personnes handicapées. L'Office des personnes handicapées du Québec offre une aide personnalisée aux personnes handicapées, à leurs familles et à leurs proches dans chacune des étapes de leur démarche d'accès aux services. Cette aide est gratuite et confidentielle. Elle est offerte dans toutes les régions du Québec. Elle peut prendre diverses formes en fonction de votre situation et de vos besoins. Pour nous joindre, il n'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic établi. Accueil, informations et références. Le personnel de l'Office est disponible pour vous aider à cibler vos besoins, vous informer sur les programmes, les mesures et les services qui peuvent répondre à vos besoins, vous diriger vers des services qui existent dans votre milieu. Faites appel à nous pour tout sujet lié à la participation sociale des personnes handicapées, notamment évoluer dans un milieu de garde, intégrer un milieu scolaire ou un emploi, accéder à une habitation adaptée, participer à la vie culturelle et touristique, avoir accès à un transport. Vous êtes une intervenante ou un intervenant? Vous êtes une ou un partenaire de l'Office? Vous désirez simplement obtenir des renseignements concernant les services offerts aux personnes handicapées? N'hésitez pas, vous aussi, à communiquer avec nous. Soutien, conseil et accompagnement. L'Office peut également vous soutenir dans vos démarches d'accès à un programme ou à un service, vous accompagner auprès des organisations ou des personnes responsables d'offrir les services, faire des représentations en votre nom, amorcer une démarche de plan de service à votre demande. Plan de service. L'Office peut amorcer une démarche de plan de service pour vous afin d'évaluer vos besoins, de solliciter les intervenantes et les intervenants concernés, de faire le lien avec la personne responsable du plan de service, de vous accompagner ou vous représenter lors des rencontres avec les intervenantes et intervenants. Le plan de service permet d'établir une stratégie adaptée à vos besoins. Il peut aussi être utile lorsque les services reçus sont jugés insatisfaisants ou qu'une rupture de service survient. Celui-ci est défini en collaboration avec vous, votre famille, vos proches et les intervenantes et intervenants des différents milieux sollicités. Les solutions retenues sont alors inscrites dans votre plan qui précise, entre autres, vos attentes et vos besoins, la liste des services nécessaires, les organisations ou les personnes responsables d'offrir les services. Joindre l'Office des personnes handicapées du Québec. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, au 1-800-567-1465 ou par courriel à l'adresse aide@ophq.gouv.qc.ca. C'était « Soutien à la participation sociale des personnes handicapées », un texte de la rédaction paru sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ.
Dix faits à décortiquer sur le homard. Un texte commandité paru le 26 avril 2025 dans la presse. Merci à l'ancêtre qui, En voyant cet étrange crustacé muni de pinces dans les fonds marins, a bravement élucidé le mystère suivant. Est-ce que ça se mange? Servant jadis à nourrir les prisonniers, le homard d'Amérique est devenu un délice festif digne des plus grands soupers bénéfices et incontournable des circulaires des supermarchés en mai. Faites ici un plongeon dans l'univers de cette créature fascinante. 1 sur 2 millions. En raison d'une rare mutation génétique causant une surproduction de protéines, une minuscule proportion de homards naissent de couleur bleu vif. Ces spécimens d'exception sont souvent remis à des centres de recherche et à des aquariums pour que le grand public puisse les admirer. Plus de 100 000 œufs. C'est le nombre de homards en devenir qu'une femelle de très grande taille peut porter pendant une seule grossesse, dont la durée varie entre 9 et 12 mois. La vie marine étant remplie d'épreuves, à peine 2 d'entre eux atteindront en moyenne l'âge adulte. Entre 560 et 900 grammes. C'est le poids moyen des homards pêchés au Québec, bien que la réglementation, calculée en fonction de la longueur de la carapace, autorise des spécimens un peu plus petits. D'autres atteignent parfois des tailles colossales. Par exemple, en 1977, un véritable monstre marin de 20,14 kg, 44,4 livres et faisant plus de 1 mètre de long a été attrapé au large de la Nouvelle-Écosse. 100 ans, peut-être plus. Ce même homard, grand format, avait environ 100 ans, ce qui démontre la longévité surprenante de cet animal. La plupart des adultes sont capturés entre l'âge de 5 et 7 ans. Il est difficile de déterminer l'âge exact d'un homard en raison de ses mues qui effacent chaque fois les signes de vieillissement. L'estimation repose plutôt sur la taille du spécimen. De 20 à 25 mues. Les homards grandissent, mais pas leur carapace. Résultat, ils doivent périodiquement s'en débarrasser et former un nouvel exosquelette, un processus qui s'étire sur quelques jours pendant lesquels l'animal est vulnérable. Les homards poupons muent de cette façon de 20 à 25 reprises avant d'atteindre leur maturité. Par la suite, le phénomène ne se répète qu'une fois ou deux par année. De 20 à 24 grammes de protéines. Une portion de 100 grammes de chair de homard contient légèrement moins de protéines que du bœuf maigre, 25 ou 26 grammes, mais environ 60% moins de calories, 97 plutôt que 250. Ce festin comprend également moins de 1 gramme de gras et presque aucun gras saturé. C'est comme si la nature avait déjà prévu que ce délicieux aliment finirait noyé dans le beurre à l'ail. Entre 12 et 18 degrés Celsius. Le homard aime se baigner dans l'eau de mer assez froide et en milieu rocheux, soit le genre d'environnement qu'offrent les côtes gaspésiennes et les îles de la Madeleine. D'ailleurs, en raison du réchauffement climatique, d'importantes populations de homards de la Nouvelle-Angleterre migrent désormais vers les eaux plus fraîches du Canada Atlantique. Jusqu'à 3 semaines de préliminaires. À quoi ressemble la romance chez les homards? Une fois que la femelle a trouvé son mâle dominant, tous deux expriment leur amour en s'urinant mutuellement dessus. S'ensuit une période de colocation dans la tanière de monsieur pendant 1 à 3 semaines. Le grand soir venu, le mâle profite de la mue de sa partenaire pour passer à l'acte, une brève affaire de 15 minutes, au terme duquel le couple se sépare. Un vrai conte de fées, ou pas. 2 pinces spécialisées. Comment savoir si votre homard est gaucher ou droitier? Repérez sa pince dominante la plus grosse et bossue, qu'il utilise pour broyer la carapace d'autres crustacés. Sa deuxième, fine et tranchante, lui sert plutôt à découper, déchirer et agripper de petites proies, ainsi qu'à manipuler sa nourriture avec délicatesse. Zéro corde vocale. Non, le soupir plaintif que poussent certains homards en protestation contre la température de la marmite n'est pas un cri de douleur, puisque ces animaux ne possèdent aucun organe pouvant émettre des sons. Il s'agit plutôt de la vapeur qui s'échappe de fissures dans leur carapace. Les homards communiquent plutôt par langage corporel et en projetant leur urine par des canaux situés près de leurs yeux. C'était 10 faits à décortiquer sur le homard, un texte commandité paru le 26 avril 2025 dans La Presse.
Un lac souterrain en Suisse, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 mai 2025 dans La Presse. John Matt a été surpris quand son agent lui a proposé un concert dans un lac souterrain en Suisse. Jouer sur les rives du lac de Saint-Léonard a été une expérience inoubliable pour le musicien montréalais. Visite du plus grand lac souterrain d'Europe. Une dizaine de fois par année, le lac souterrain de Saint-Léonard, près de Sion, en Suisse, propose une activité unique en son genre, un concert sur les rives d'un lac souterrain. On met les spectateurs dans une grande barque et ils peuvent assister au concert des musiciens qui sont sur la rive du lac, explique Cédric Savioz, directeur du site. C'est un lieu unique au monde, avec une acoustique difficile à retrouver ailleurs. John Matt, du groupe montréalais folk Franklin Electric, a donné un spectacle au lac de Saint-Léonard l'été dernier. Mon agent m'en a parlé alors que je jouais dans un château tchèque. Ça m'a intriguée, mais en même temps, je me suis inquiétée parce que je suis claustrophobe. Monsieur Matt a immédiatement vu que la cave spacieuse était à 1000 lieues de la claustrophobie. Ils m'ont laissé sur les rives pour un test de son. Je me suis dit, merde, je suis tout seul ici. C'était magique. Les échos, c'était malade. Ça m'a fait penser à des châteaux en Europe où j'avais joué. Monsieur Savioz a lancé les spectacles quand il est entré en poste en 2010. On m'avait demandé d'enregistrer un disque dans la grotte. L'idée de spectacle me trottait dans la tête. Ça m'a confirmé que ça marcherait. Il y a une douzaine de spectacles chaque année pour une centaine de spectateurs à la fois. Ils sont généralement à guichet fermé. Les musiciens sont soit sur une barque, soit sur l'un des petits rivages. Il est aussi possible d'organiser des apéritifs privés sur le lac, agrémentés de duos de musique classique ou rock. La découverte. La grotte a été formée il y a 12 000 ans par l'action de la pluie percolant de la colline surplombant le site, maintenant couverte de vignobles. Elle a érodé une roche poreuse contenue entre deux roches étanches, raconte un fascinant récit géologique à l'entrée de la grotte. Au fil des années, un espace s'est formé entre l'eau et le sommet de la grotte. Les gens des environs savaient qu'il y avait un espace entre l'eau et le sommet de la grotte, mais il a fallu un séisme en 1946 pour qu'il devienne navigable. Avant, l'eau était trop proche du plafond, raconte Cédric Savioz. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée suisse a fait la reconnaissance de grottes comme forteresse en cas d'invasion allemande et a réalisé la première cartographie officielle de la grotte. La visite. Toutes les heures, un bateau part du quai situé à l'entrée de la grotte. Le guide parle successivement en allemand, en français et en anglais, si nécessaire, à la trentaine de touristes à bord. Durant la visite d'une demi-heure, on peut voir des épaves couler volontairement, les arabesques des stalactites et, au fond du lac, des caisses de vin qui vieillissent. Une statue de Sainte-Barbe, patronne des mineurs et des pompiers, veille sur les touristes. Le folklore est aussi évoqué. On raconte par exemple que les paysans y mettaient des bouteilles de fendant, le célèbre vin blanc suisse, à rafraîchir dans la mare à l'entrée de la grotte quand le niveau de l'eau était élevé avant le séisme de 1946. Et aussi que les jeunes femmes, qui ne trouvaient pas de mari, allaient s'y recueillir le soir de Noël pour voir le visage de leur futur époux dans le reflet de la lune sur le lac. La réservation en ligne est obligatoire et souvent, les visites affichent complet des jours à l'avance. Les visites ont lieu de mars à novembre, l'hiver étant réservé aux travaux de consolidation de la grotte et d'entretien des infrastructures électriques et de ventilation. Quelques lacs souterrains. Les concurrents de Saint-Léonard, au titre de plus grand lac souterrain d'Europe, sont une ancienne mine de sel en Autriche qui a été utilisée durant la Seconde Guerre mondiale comme centre de fabrication d'avions Messerschmitt et les grottes du Drap à Majorque. Dans les deux cas, les grottes sont plus grandes, mais la mine de sel n'est pas naturelle et à Majorque, le lac est plus petit, précise M. Savioz. En savoir plus, 300 mètres, longueur du lac souterrain de Saint-Léonard, 70 mètres, hauteur de la colline du Châtelard au-dessus du lac souterrain de Saint-Léonard. C'était un lac souterrain en Suisse, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 mai 2025 dans la presse.
La résilience de CIBL, célébrée dans l'effervescence. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. Contre vents et marées, la radio communautaire montréalaise CIBL-FM fête son 45e anniversaire en grand. Un marathon de 45 heures de radio en majorité en direct a été prévu pour l'occasion. Les studios de l'organisme situés à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine ont été animés toute la nuit entre samedi et dimanche 25 et 27 avril 2025, avec entre autres des performances musicales. Le marathon s'est clôturé par une rencontre avec l'animateur de radio et humoriste Richard Z. Sirois, qui a fait jouer des disques vinyles. Il y a 45 ans, CIBL a commencé avec des vinyles, souligne Isabelle Beaubien, responsable de la programmation et des partenariats. Ça a commencé aussi avec Rock et Belles Oreilles, dans lequel était Richard Z. Sirois. Tout est dans tout, lance Jeanne Doré, présidente du conseil d'administration de la station. Cette programmation montée par un comité de bénévoles du 45e est un exemple extraordinaire de la mobilisation des artisans de CIBL pour sa survie et son rayonnement, estime Madame Doré. Depuis sa fondation, cette station est un tremplin pour les jeunes et un lieu de prise de parole citoyenne. Or, la station de radio est toujours en train de remonter la pente et d'asseoir un nouveau modèle d'affaires, après des années de crise sur le plan financier. Jeanne Doré s'est présentée à la présidence du conseil d'administration en 2018, peu après la mise à pied des 13 employés de la radio et l'annulation de toutes les émissions. Les revenus publicitaires avaient diminué sérieusement. C'était de plus en plus critique, de plus en plus difficile pour CIBL d'œuvrer dans le domaine avec ses charges immobilières, en tant que copropriétaire de l'immeuble, rappelle cette travailleuse sociale ayant travaillé pendant 25 ans comme directrice générale de l'entreprise de réinsertion sociale, le Boulot Vert. Passionnée de radio, elle était alors sortie de sa retraite et avait uni ses efforts à ceux du comité de relance qui s'était formé. Un chemin tortueux. Un nouvel élan semblait avoir été trouvé pendant la pandémie avec l'apport de publicités gouvernementales relatives à la COVID-19, raconte la septuagénaire. Trois employés ont pu être engagés de nouveau. Mais en 2022, les publicités gouvernementales avaient disparu et ça ne fonctionnait toujours pas, estime la présidente. Il fallait revoir le modèle d'affaires. Cette dernière mise aujourd'hui sur plusieurs sources de revenus. Il y a d'abord le bingo du dimanche, instauré en octobre 2023. Sans être miraculeux, ce dernier génère un profit avec plus de 600 livrets vendus chaque semaine. Madame Doré travaille également à développer des partenariats visant à mettre à profit l'équipement, les locaux et l'expertise de la station pour des projets sonores, comme des balados. CIBL lance aussi des collectes de fonds, dont l'une dans le cadre du 45e anniversaire. La radio compte aujourd'hui un seul salarié, quelques travailleurs contractuels et un grand nombre de bénévoles, dont presque tous les animateurs des émissions. La présidente du CA estime pour sa part qu'elle travaille au moins 35 heures par semaine, bénévolement. On réussit à être le reflet de ce que vivent les communautés dans la région de Montréal, malgré notre manque de moyens, affirme Mme Doré au sujet de la programmation très culturelle de la station. Elle cite en exemple les émissions 20 ans branchées, un rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'effet du numérique sur notre quotidien et sur notre cerveau, ainsi que l'effet durable en collaboration avec la Maison du développement durable qui aborde divers aspects de la transition écologique. Le rendez-vous d'information quotidienne, les Aurores Montréal, est animé par des stagiaires rémunérés grâce à une subvention. Madame Doré rêve d'une émission qui donnerait le micro à des personnes vivant ou ayant vécu l'itinérance. Nous sommes situés à un endroit où il y a beaucoup de détresse, une grande misère. Je ne sais pas comment on peut y arriver, mais ce serait de faire un peu comme Mohamed Lotfi l'a fait avec les détenus à l'époque de l'émission Souverain Anonyme diffusée à CIBL, décrit-elle. Pour la suite des choses, la présidente souhaite que CIBL demeure une voix pour la diversité de la population montréalaise, incluant les plus marginalisés. C'était « La résilience de CIBL, célébrée dans l'effervescence », un texte de Roxane Léouzon, paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.